Bonjour à toutes et à tous, 23e numéro déjà de Mémoire Véronaise sur CFM Rodez, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Tout va bien?
Oui, toujours.
Bon, tant mieux. Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du Souvenir Français, grand passionné d'histoire et grand collectionneur aussi. Tout à fait. Alors, il y a 15 jours, à la fin de l'émission qui était consacré à ton ouvrage à paraître d'ici quelques jours sur Jean Béthou.
Quelques petites semaines.
Sur Jean Béthou, un artiste maquis. Tu nous avais annoncé pour cette émission, cette semaine, comme sujet, le monsieur qui a donné le nom la rue où j'habite.
À la rue où tu habites, voilà, le général Béthey. Cette émission, avec tous les généraux dont nous avons parlé et dont nous allons parler encore, ça sera plus une émission, ça sera une véritable constellation, tellement qu'on va avoir d'étoiles.
Tiens, d'ailleurs, question. Combien d'étoiles il y avait déjà des étoiles pour les généraux à l'époque pour,
C'est des séries de feuilles de chêne, pas d'étoiles à cette époque-là.
Alors une question, mais tu vas peut-être, t'avais peut-être prévu de nous le dire un petit peu plus tard, mais quand même, moi j'habite la rue Béthey.
Oui.
Donc tu vois, je la connais la rue.
Oui.
Bon, et pourquoi on ne dit pas la rue du général Béthey? Pourquoi on lui donne son nom de civil?
Eh bien, c'est une très bonne question.
Ah. Bon, mais peut-être qu'on va avoir des explications à travers ce que tu vas nous raconter sur ce monsieur.
Oui, non, c'est peut-être parce que on a plus voulu rendre hommage au fils de Rodez plutôt qu'à l'enfant de Rodez plutôt qu'à son grade. Je sais pas. Bon. En fait, je sais pas du tout.
Eh ben, on va peut-être le comprendre grâce à sa vie que tu.
On va le voir à la fin.
Bon, ok. Alors déjà, on remonte le temps. On remonte quand là?
On remonte sous le règne de Louis XV.
Ouh là là, 18e siècle.
Oui, tout à fait. Okay. On remonte donc à sa naissance. Hein. Jean-Alexis Béthey est né le 7 août 1763. Donc, on est sous le règne de Louis XV. Mm-hmm. À Rodez, plus précisément au faubourg Saint-Cyrus, où son père est commerçant. On sait qu'il fait de bonnes études à Rodez, c'est quelqu'un d'assez instruit. Il est très tôt attiré par la carrière militaire et s'engage à 18 ans, en avril 1782, alors là on est sous le règne de Louis XVI,
ouais.
Voilà, au régiment Berry Cavalerie. Les régiments à l'époque avaient des noms de provinces ou des noms de leur colonel, donc des noms de nobles. Il n'y avait pas encore des noms de numéros. Les numéros vont apparaître au moment de la Révolution. Uh-huh. Il rêve de devenir officier, mais malheureusement, à cette époque-là, les grades d'officier sont réservés à la noblesse.
Ouais.
Donc il décide de quitter l'armée et il obtient un congé, on peut pas quitter l'armée comme ça, sinon on est déserteur, en 1785. Mmh. Il va profiter de la Révolution française pour revenir dans le métier des armes et connaître là, par contre, une ascension fulgurante. En février 1791, il rentre dans le 2e bataillon de l'Aveyron, où il est lieutenant. Mmh. Ça y est, officier, il a enfin réussi. Mmh. Dans ce bataillon de l'Aveyron, il se trouve également deux autres futurs généraux d'Empire. Un dont on a déjà parlé, Sébastien Viala.
Ouais.
Et un autre dont on parlera prochainement, Jean-Joseph Tarrère.
Ah oui,
cette émission va devenir une véritable constellation avec tous ces généraux. Ces trois Aveyronnais ne se quitteront pas de leur départ de l'Aveyron pour l'armée jusqu'aux rives du Nil.
D'accord.
Voilà, ils se sépareront après la bataille d'Égypte.
Ouais, des pyramides. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment amis ou juste ils se côtoyaient?
Alors. Ça, je sais pas.
D'accord.
Ça, je sais pas. Okay. Mais en tout cas, oui, ça c'est sûr qu'ils se côtoyaient. Mmh. Ce bataillon de l'Aveyron, donc comme je t'ai dit, au moment de la Révolution française, on prend des numéros, on remplace les noms, deviendra le 85e régiment d'infanterie de ligne. Mmh. Quelques mois plus tard, après être rentré, il est promu au grade de capitaine. Donc tu vois, c'est quand même une ascension assez fulgurante. En 1793, il combat sous les ordres d'un certain commandant d'artillerie Bonaparte.
Ah bah oui.
Hein, celui qui a, tu sais, il est très bien logé puisqu'il a, un Bonaparte. Lors du siège de la ville de Toulon. Mmh. Toulon, en fait, était tenu par des royalistes, voulaient résister. Et pour pouvoir mieux résister, ils ont fait rentrer les Anglais dans la ville.
Ah.
Et donc, l'armée révolutionnaire, commandée par Bonaparte, a fait le siège de la ville et a fait, comme tu dis, a fait le ménage, a réussi à virer les Anglais. Ça, c'est bien. De 1796 à 1798, il participe à la campagne d'Italie où il s'illustre lors de la prise de Saorge au début de cette campagne. Ensuite, au combat de Saint-Mihiel, à la bataille de Mondovi, Puis, il embarque pour l'expédition et la campagne d'Égypte, qui durera de 1798 à 1801. Il se distingue aux batailles de Chébres, à la fameuse et très célèbre bataille des pyramides, aussi à la bataille d'Héliopolis et lors du siège d'Alexandrie. À son retour en France, en septembre 1801, il est nommé chef d'escadron, c'est-à-dire commandant, à la 2e Légion de gendarmerie. De militaire à proprement parler, là il devient, c'est toujours militaire, mais il devient plus précisément gendarme et il finira toute sa carrière dans la gendarmerie. Il participe aux campagnes de Prusse et de Pologne de 1806 et 1807, à la campagne d'Autriche en 1809, où il dirige la prévôté. La prévôté, c'est la gendarmerie militaire, vraiment spécialisée pour faire la gendarmerie au sein de l'armée. La prévôté du maréchal Bernadotte. De 1809 à 1811, il est engagé dans la terrible campagne d'Espagne, où il commande le 4e escadron de gendarmerie à cheval. La situation militaire en Espagne étant de plus en plus difficile, les gendarmes à cheval vont devoir combattre comme simples cavaliers. Donc ils sont plus sur les arrières et à faire œuvre de police, mais là ils sont carrément au front, en première ligne, comme simples cavaliers. En janvier 1811, Béteille est promu colonel commandant la 1ère légion de gendarmes à cheval. En octobre 1812, il s'illustre à la tête de la Légion de gendarmerie de Burgos, donc en Espagne, Castilla et León, si je me trompe pas,
les provinces,
lors de la bataille de Villodrigo. Très très célèbre bataille, surtout pour lui, parce que il est blessé, il reçoit énormément de blessures, il est laissé pour mort sur le champ de bataille, avec 6 coups de sabre à la tête, dont je cite, qui a mis à découvert le cerveau.
Ah bah d'accord.
Donc c'est bien entaillé.
Ah, et il s'en sort.
Il s'en sort. 5 coups au bras et 1 dans le ventre. Alors la légende, il y a toujours des légendes, tu sais, dans ce genre de bataille. La légende raconte que dépouillé, le croyant mort, dépouillé de son uniforme et privé de ses bottes, il aurait été sauvé par un de ses lieutenants qu'il aurait reconnu grâce à la couleur de ses chaussettes. Je me demande bien comment ce lieutenant pouvait connaître la couleur de ses chaussettes. C'est peut-être son aide de camp qui l'habillait tous les matins, cela ne nous regarde pas. À l'issue de cette bataille, le général Buquet autorise le colonel Béteille à se rendre à Rodez, chez lui, pour s'y faire soigner.
Il en avait
un tout petit peu besoin. Alors, suite à cette bataille et à ce fait d'armes, en février 1813, Napoléon l'élève à la dignité de baron d'Empire, ce qui n'est pas rien, et lui décerne la croix d'officier de la Légion d'honneur.
Voilà, plus haute distinction.
La Légion d'honneur, la plus haute distinction à ce moment-là, et même encore, dans notre pays. En mars 1813, l'empereur le nomme général de brigade. Enfin général.
Voilà.
En 1814, c'est la campagne de France. L'ennemi est sur notre sol. Le maréchal Soult combat les Anglais, les Espagnols et les Portugais dans le sud-ouest, principalement et dans le Pays basque. Tandis que l'empereur combat les Russes, les Prussiens et les Autrichiens dans l'est de la France. Le général Béteille, à ce moment-là, est nommé commandant du département de l'Ain.
D'accord, donc dans l'est, nord-est.
Donc en plein milieu de ces combats de la campagne de France, où il affronte donc les armées coalisées. Sous la première restauration, donc Louis XVIII, Napoléon abdique, il est envoyé à l'île d'Elbe, je rappelle. Louis XVIII, le frère de Louis XVI, prend le trône de France, revient dans notre pays. Et donc sous la première restauration, il reçoit la croix de chevalier de Saint-Louis et la plaque de commandeur de la Légion d'honneur.
D'accord, bah lui, je vais pas dire qu'il picorait à tous les pots, mais enfin avec Napoléon, il est décoré, il est promu. Avec le retour de la monarchie, il est promu. Avant Louis XV, il avait déjà pris du grade.
Oui, mais tu sais, à l'époque, il y a pas beaucoup de choix. Déjà, tu en tant que militaire, tu respectes quand même le gouvernement, même si tu es contre ou pour, tu dois respecter les ordres, le gouvernement établi.
Mais de là à avoir de la promotion,
on lui a peut-être donné, je ne veux pas le défendre, je ne le connaissais pas.
D'accord.
On n'a pas été présenté. Mais peut-être que à l'époque, je pense que Louis XVIII, si tu veux, il ne l'a peut-être même pas demandé. Je pense que Louis XVIII, quand il est arrivé au pouvoir, il a voulu s'accorder les bonnes grâces de tous ces anciens généraux et officiers d'Empire, ouais, en leur donnant des médailles. Ouais. Je sais plus qui c'est qui disait que les médailles étaient souvent des hochets que l'on distribuait pour se accorder les faveurs et les bonnes grâces de certaines personnes. Donc voilà. Il retrouvera un poste dans l'armée de réserve qu'en 1830.
D'accord.
Parce qu'il est mis à la retraite.
Ouais, parce que là, 1830, il a pas loin de 70 ans. Hein.
C'est ça. Donc oui. Mais bon, 1830, c'est Louis-Philippe qui revient. Ouais. De Louis XVIII à Louis-Philippe, j'ai fait quand même un petit raccourci, puisque il se passe rien. Il est mis ce qu'on appelle un demi-solde.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on le.
Pas un placard, mais bon.
On le paye un peu à rien faire. On lui donne la moitié de sa solde. Avec l'arrivée de Louis-Philippe en 1830, donc Louis XVIII, je le rappelle, première restauration. Napoléon qui revient pour les 100 jours. Louis XVIII qui revient après la défaite de Waterloo et l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, Louis XVIII revient, il meurt en 1824. Son frère, encore un frère de Louis XVI, monte sur le trône en 1824 sous le nom de Charles X, et en 1830, c'est la Révolution. Et Louis-Philippe arrive au pouvoir, non plus comme roi de France, mais comme roi des Français.
Oui.
Voilà. Donc, est-ce que c'est aussi pour s'accorder de les bonnes grâces d'anciens généraux d'Empire? Voilà, je ne sais pas, c'est possible. Louis-Philippe, en 1830, lui redonne un poste militaire, mais ça sera un poste dans l'armée de réserve, donc vraiment dans l'armée d'active. Par contre, il y restera pas longtemps, il y restera 2 ans, puisque en 1832, enfin, toi qui calcules bien... Là,
69 ans.
Voilà, il est mis en retraite définitive.
Ah non, mais... ça rigolait pas.
C'est comme certains chanteurs, tu sais, on s'en va, on revient.
Ah oui, on revient. Pour une dernière tournée. D'accord.
Voilà, dernière tournée qui dure 10 ans. Jean-Alexis Béteille meurt à Paris le 13 février 1847.
Ah, dis donc,
à l'âge de 84 ans.
Ah ouais, il aura une belle vie. Hein.
Sans laisser de descendance.
D'accord, on se demandera quand même ce qu'il foutait à Paris à 84 ans.
Oh, ben, je pense qu'il est resté là-bas pour être pas loin du pouvoir, voilà.
Ok.
Il est enterré au célèbre cimetière du Père Lachaise.
Ah ouais.
Tu peux me dire qui était ce fameux Père Lachaise?
Ah non. Non. Non, moi je vais dire oui, c'est là où il y a...
un des confesseurs de Louis XIV.
Ah, moi j'aurais dit Jim Morrison.
Non, c'est un tout petit peu plutôt.
Non, le Père Lachaise, non, mais je pourrais faire une blague.
Alors on fait souvent, quand on dit rapidement le mot Père Lachaise, mais en fait c'est le Père Lachaise.
Ah oui. Oui,
pour ceux qui connaissent.
Ah oui, c'est pas un seul mot. Oui, tout
voilà.
À fait.
Autant t'es parisien, tu connais.
Oui.
L'épitaphe qui est inscrite sur sa tombe est très très intéressante. Ouais. Elle résume à elle seule toute sa formidable campagne militaire. Il faut dire qu'à cette période-là, sous l'Empire, bon, on risquait sa vie, mais les soldats de la Grande Armée ont voyagé dans l'Europe entière. Ouais, même on l'a vu, même sur les bords du Nil. Ça a été quelque chose de vraiment l'épopée napoléonienne de grandiose. Ouais. Avec malheureusement, les guerres, les morts et les destructions que... Voilà, je ne fais pas l'apologie de la guerre.
C'était pas du tourisme.
C'est pas du tourisme, tout ce que ça a comporté. Ouais. Alors, l'épitaphe, je vous la lis. Il partit simple volontaire, il revint général. Déjà, c'est beau.
Ouais.
Campagne d'Italie, d'Égypte, d'Allemagne, d'Espagne. Bataille de Mondovie, des Pyramides, d'Héliopolis, de Villadrigo. 15 blessures... dont 7 sur la tête et le visage. C'est sacré épitaphe.
Et d'avoir quelques cicatrices sur la fin.
Je pense que, on n'en parle pas trop, mais je pense qu'il y a un buste que les éditeurs d'ailleurs pourront retrouver pour imager cette émission en podcast.
Le podcast, oui.
Alors, très beau buste. Je pense que, bon, souvent les artistes.
Ils l'ont un peu arrangé.
Voilà, je pense qu'ils ont dû un peu l'arranger. Parce que quand on lit le descriptif, oui, effectivement, ça donne pas envie. Sans héritier pour l'entretenir, sa tombe, donc, du Père Lachaise.
Ah, il n'a pas été marié, pas d'enfant.
Non, d'accord. Pas marié, pas d'enfant.
Ok.
Sa tombe du Père Lachaise tombe en décrépitude, en très, très, très mauvais état. Ah. Et la mairie de Paris était pas loin vraiment de la déclarer à l'état d'abandon pour pouvoir récupérer la concession.
Hein. Et oui, la place.
C'est ce qui arrive. Même encore à l'heure actuelle.
Oui, bien sûr.
Alors, un ami, le capitaine de gendarmerie en retraite, Raymond Duplan.
Ouais, mais un ami à qui ?
Dont on a déjà parlé, à moi.
Ah ouais, d'accord, pas à moi. Bétail.
J'ai quelques amis.
Ok.
Ça, bon, peu, mais j'en ai. Oui. D'ailleurs, je les salue. Je sais que beaucoup écoutent cette chronique. Raymond Duplan, donc, ancien capitaine de gendarmerie en retraite, on en a déjà parlé.
Oui.
Ancien conservateur du musée de la gendarmerie de Melun, membre du souvenir napoléonien, membre de mon comité de Rodez du souvenir français. Voilà, vraiment un savant, un érudit. Lui a décidé de sauver, alors pas la tombe, mais de sauver, parce que ce que tu dois payer de concession à Paris au Père Lachaise, c'est une véritable fortune. Soucis économiques, il valait mieux qu'il rentre au pays.
D'accord.
Lui a fait rapatrier.
Ah ouais ?
Oui, il s'est occupé de tout. Il s'est occupé de faire rapatrier les cendres du général Béteille à Rodez.
D'accord.
Il y a eu une très, très belle cérémonie officielle.
Mais c'était quand ?
En présence de l'armée et des autorités civiles, ouais. Le 23 octobre 2009.
Ah ouais, bah j'étais pas
là. Voilà, il y a quelques petites années.
Okay.
Et moi, je n'étais pas présent non plus. Mmh. J'étais encore expatrié sur la région bordelaise.
Mais alors, les cendres, ils les ont répandues comme ça ou il y a
Non, ils l'ont mis dans le caveau familial.
Ah ouais.
En fait, le caveau de la famille de sa sœur. Il avait une sœur, ils étaient deux enfants, et ils l'ont mis dans le caveau de sa sœur.
Au cimetière de Rodez.
Au cimetière de Rodez. On peut voir la tombe avec une très belle plaque en bronze avec l'aigle napoléonien. Pareil, une petite épitaphe. Alors, le 23 octobre 2009, c'est le jour de la cérémonie officielle pour la translation de ces cendres. Et le 23 octobre, c'est la date anniversaire de cette fameuse bataille où il a été défiguré. Mais bon, les dragons rouges anglais qui étaient en face, apparemment, c'était aussi une grande victoire.
Ils ont pris cher.
ça, c'est bien.
Tiens, petite question, alors excuse-moi, peut-être.
Vas-y,
c'est
oui,
une
piège. Oui.
La rue Béteille, donc, elle porte ce nom. Quand la municipalité de Rodez a choisi de lui donner ce nom, tu sais ou pas ?
T'es pressé, t'es toujours pressé. J'y arrive justement maintenant. Tu vois, en plus, tu tombes bien. Alors. Les hommages, puisque je termine toujours quand je parle d'un personnage célèbre, de parler par les hommages qui lui sont rendus. Donc, à sa mort, en 1847, le général Béteille lègue à la ville de Rodez une belle somme, 20 000 francs.
Ah ouais,
20 000 francs pour l'époque, c'est pas mal. Le conseil municipal, pour le remercier, décide de donner son nom à une rue de la ville. Ah, il s'agit donc de la rue que tu connais bien.
La rue
Béteille.
Donc ça date vraiment de sa mort.
Ça date de sa mort.
Okay.
Eh ben, 20 000 francs, ça...
Ouais, mais
c'est pas mal. Je sais pas combien M. Tessèdre voudrait pour... pour qu'on ait... À moi ou à toi, je sais pas.
Parce que là,
on pourrait s'associer, remarque. Ça diviserait le prix, ça coûterait moins cher.
Parce que la rue Béteille, elle est longue, 20 000 francs, bon, faut voir.
C'est ça, c'est une belle rue.
Nous, on demanderait une petite rue ou une impasse, ça coûterait peut-être moins cher. Faut voir.
Pourquoi pas.
On verra.
On verra, n'y est pas encore. En 1925, la 13e promotion d'élèves officiers de l'école de gendarmerie de Versailles prend le nom de promotion générale Béteille.
Ah, d'accord.
En 1975... La caserne de Bouliac, en Gironde. Alors pourquoi Bouliac en Gironde ? Aucune idée, parce qu'il n'est jamais passé par là. Mmh. Prend le nom de caserne général Béteille.
Ah ouais, mais c'est un héros.
C'est ça.
Dans formation.
Et pour nous,
ouais.
Il faut attendre 1992 pour que l'ancienne caserne, on en avait parlé des premières émissions, l'ancienne caserne neuve prenne le nom de caserne général Béteille.
Ouais. Voilà.
Et elle s'appelle toujours caserne général Béteille.
La caserne
de gendarmerie actuelle.
D'accord.
Voilà, tout à fait.
Tu vois, ça, j'avais oublié.
Et donc, pour terminer, depuis 2009, donc vous pouvez retrouver la tombe du général Béteille au cimetière de Rodez.
Ah ben ouais.
Alors pour ceux qui connaissent, il y a trois entrées. Une par la maison du gardien, une entrée plutôt basse. Une autre entrée encore plus basse, c'est de l'autre côté du cimetière par la rue du Rendez-Gros. Et il y a une entrée haute. Tout à fait en haut, à côté du collège Jean Moulin. C'est cette entrée qu'il faut prendre, l'entrée haute. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il faut descendre cette rue du cimetière. Là,
Cette allée.
C'est sur le côté droit. Je crois que c'est pas très loin de cette entrée. Enfin, vous chercherez.
Bah voilà, on va y aller.
Vous chercherez et vous serez surpris parce que il y a le cimetière de Rodez, comme tous les cimetières anciens, mérite vraiment d'être visité. Ouais. Jean-Philippe Savignoni de Rodez Agglomération du service culturel fait plus une ou deux fois par an des visites de ce cimetière. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ça avec lui. C'est vraiment pas mal.
Ouais, il y en aura probablement là vers novembre.
Tout à fait. Et vers novembre, alors tu fais bien de le rappeler. Pour ceux qui voudraient me rencontrer, moi je serai le 1er novembre déjà, le Souvenir Français, on avait fait une émission là aussi dessus. Le Souvenir Français fait une une cérémonie très tôt le matin du 1er novembre, dans le monument central qu'on appelle vulgairement le rond-point. Tu vois, je parlais de route, mais en fait, de rue, mais on peut y aller en voiture, et donc c'est pour ça.
Au cimetière.
Dans le cimetière, d'où le lapsus. Et ensuite, moi, je serai à la porte qui est côté avenue Durand-de-Gros toute la journée du 1er novembre pour la quête nationale du souvenir français.
Très
donc vous
bien,
pouvez venir me voir, n'oubliez pas vos pièces.
Et tu, d'ailleurs, tu nous rediras tout ça à l'occasion de notre prochaine émission.
Bien sûr, bien sûr.
On sera encore avant le 1er novembre.
Si bien qu'on ne fait jamais assez de publicité.
Jamais assez, jamais assez. Merci beaucoup Vincent.
Ben non, merci à
pour
toi.
Pour cette nouvelle émission, 23e émission de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez avec le général Béteille cette semaine. Oh, j'ai envie de dire au menu, mais bon, ça correspond pas trop parce qu'on, ça fait un peu cannibale.
Oui,
mais, au programme. Bon. Dans 15 jours, Vincent, est-ce que tu sais de quoi tu vas nous parler?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais vous parler de l'incroyable histoire du soldat inconnu. Alors, je suis pas, attention, je te vois venir. Ouais. Je suis pas en train de dire que je connais le soldat inconnu et que le soldat inconnu est un Aveyronnais.
Ah bon, d'accord, c'est ce que j'étais en train de me dire, là. Alors, du scoop.
En fait, je vais vous parler de cette aventure, qui est vraiment incroyable. Et je vais vous parler également du soldat Gaston Boyer, qui est originaire de Villefranche de Rouergue et qui a pris part à cette aventure, donc, du convoyage des corps. Enfin, je ne vous en dis pas.
Il y a toute une histoire comment il a choisi le soldat.
Tout à fait, tout à fait. C'est pas lui qui l'a choisi, mais il a participé à cette incroyable aventure du choix du soldat inconnu. Je vous en parlerai dans 15 jours.
Eh ben, avec plaisir, avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Vincent.
Merci à toi, merci à vous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.